Chapitre 14. Alex tournait comme un lion en cage. L'équipe de Didi était réunie dans le séjour. Les techniciens de scène de crime étaient arrivés. Ils examinaient leurs portes d'entrée, relevaient les empreintes, mettaient sous scellés les différents présents laissés par le tueur. Des agents en tenue avaient passé le quartier au peigne fin. D'autres avaient mené l'enquête de voisinage et établi qu'un individu banal, conduisant une camionnette blanche banale au nom d'une grande société de télésurveillance, s'était garé dans leur allée quand l'alarme d'Alex et Didi s'était mise à hurler. Mais n'était-ce pas plutôt juste avant le déclenchement de l'alarme? Quoi qu'il en soit, celle-ci s'était mise en marche et un agent se trouvait sur les lieux pour intervenir. Homme, femme, jeune, vieux, blanc ou noir, personne ne savait très bien. Mais un agent de sécurité, qui se trouvait précisément sur place. Sacré coup de chance, hein? Alex tournait comme un lion en cage. C'était lui qui avait trouvé la carte de vœux. De retour du travail, il s'était garé dans l'allée. Jack sanglait dans son siège auto. Il avait ouvert sa portière et pris conscience que leur alarme hurlait à peu près au moment où son portable sonnait. Leur société de télésurveillance, la vraie, venait au renseignement. Ne voyant rien d'anormal depuis la rue, Alex était entré chez eux. Il y avait déjà eu de fausses alertes. Ça arrive. Et comme la porte n'avait rien, que les fenêtres étaient intactes et que le rez-de-chaussée semblait tranquille, il s'était détendu, avait-il laconiquement raconté à Didi. Avec Jack au cru du bras gauche, le téléphone collé à l'oreille droite et la société de surveillance toujours en ligne, il avait fait un saut à l'étage pour jeter un dernier coup d'œil. L'entreprise de télésurveillance avait alerté la police pendant qu'Alex ressortait aussitôt de chez eux avec son fils de 3 ans dans les bras pour le conduire chez ses parents. Il le garderait pour la nuit. Pendant que les techniciens de scène de crime procéderaient aux constatations chez Alex et Didi. Et qu'Alex tournerait comme un lion en cage. Les mains dans le dos, il portait sa tenue de l'école de police. Pantalon kaki, chemise bleu marine, écusson de la police d'État cousu sur la poitrine. La ligne crispée de ses épaules montrait à quel point il était tendu. En revanche, son visage restait neutre, presque indéchiffrable. Alors que Didi avait pour spécialité d'extérioriser sa colère, Alex était passé maître dans l'art d'intérioriser la sienne et de tenir la bride ferme à ses émotions. Pour la première fois, elle songea à l'épreuve qu'avaient dû être pour lui les 6 dernières semaines. C'était elle qui grinçait des dents et râlait de se sentir réduite à l'impuissance. Mais Alex avait-il eu son mot à dire dans l'histoire? Un beau jour, son épouse était partie au travail. Et depuis lors, elle était incapable de s'habiller, de s'occuper de leur enfant ou de faire quoi que ce soit d'utile. Il avait fallu qu'il la regarde souffrir, qu'il l'aide à accomplir des gestes qui redoublaient souvent sa douleur. Et il assumait toutes les responsabilités parentales et toutes les corvées ménagères sans qu'on puisse prévoir quand cette situation prendrait fin. Et pourtant, jamais il n'avait eu un mot pour se plaindre. Jamais il ne l'avait rembarré en lui disant de se secouer. Il la soutenait. Et en ce moment même, il n'exigeait pas de savoir dans quel drap elle s'était fourrée, ni comment elle avait osé faire entrer les risques de son métier dans sa propre maison. Il réfléchissait, il analysait, en stratège. Il ne s'apitoyait pas sur son sort, ni sur celui de Didi. Il songeait à la façon de retrouver le salopard qui avait violé l'intimité de leur foyer. « Bon !» dit enfin Phil, assis sur le canapé, le calepin ouvert sur les genoux. Sa veste grise était froissée, sa cravate bordeaux de travers. De tous, c'était lui qui semblait accuser le coup le plus durement. Comme Didi était sur la touche, il dirigeait l'enquête. Or, non seulement l'assassin avait fait une deuxième victime, mais ils venaient les narguer sous leur nez sans qu'eux-mêmes arrivent à mieux le cerner. « Bon, » répéta Didi. Elle avait apporté une chaise de cuisine dans le salon et s'y était assise, le bras gauche collé au corps, une poche de glace derrière l'épaule. Après sa séance de rééducation impromptue chez le docteur Glenn, cela semblait le minimum qu'elle puisse faire. Et puis elle essayait de se prouver à elle-même, sinon à sa thérapeute, qu'elle n'était pas totalement psychorigide. Oui, elle pouvait essayer d'autres méthodes pour soulager sa douleur. Chiche. Les voisins n'avaient pas grand-chose à nous apprendre, continua Phil. En résumé, un individu, au physique très quelconque, est entré chez vous. En face de Phil, Neil haussa les épaules. Rien de nouveau. L'assassin s'est introduit sur deux autres scènes de crime et il les a quittées sans attirer l'attention. Manifestement, il est doué pour se fondre dans le paysage. Mais ça nous renseigne peut-être sur ses méthodes, constata Phil. Le suspect était déguisé en agent de sécurité. On pourrait retourner sur les deux autres scènes de crime et voir s'il y avait une alarme, si des demandes d'intervention sont arrivées ce soir-là, ou élargir l'éventail à d'autres sociétés de services. Peut-être que les voisins auraient vu une camionnette de soi-disant dératiseur ou de plombier. Vous voyez, le genre de détails qui ne les auraient pas frappés sur le coup. Mais si on retournait les voir avec des questions plus précises. Mais enfin, qui est ce type ? Intervint brusquement Alex. Il avait arrêté de tourner en rond et planté au milieu de leur modeste salon, il les dévisageait. « Monsieur tout le monde, » répondit Neil. « Ou peut-être « Madame tout le monde ». Les statistiques plaideraient pour monsieur puisque la plupart des assassins sont des hommes. Mais en l'absence d'agression sexuelle et de tout signalement exploitable, nous ne pouvons pas exclure qu'il s'agisse d'une femme. Donc je dirais X ou Y tout le monde, un quidam tout ce qu'il y a de plus quelconque. « Faux !» réagit aussitôt Alex. « Notre individu est un assassin. Ça le range déjà dans une catégorie extrêmement réduite de la population. Et ceux qui commettent un double meurtre, sans être des sadiques sexuels, représentent un faible pourcentage de cette population déjà réduite. Alors je répète, qui est ces tordures ? Jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à comprendre comment ils fonctionnent, alors que lui ou elle sait parfaitement comment nous atteindre. » Didi comprenait ce que son mari voulait dire. « Je suis allée dans un funérarium aujourd'hui, » raconta-t-elle. « Je m'étais fait la même réflexion que toi. Nous traquons un assassin qui commet des crimes extraordinairement macabres, mais sans paraître intéressé par le meurtre en soi. C'est la mutilation post-mortem qui le pousse à l'acte. D'où l'idée d'un individu qui préférerait la compagnie des cadavres à celle des vivants, d'où l'idée d'un employé des pompes funèbres. » « Le syndrome Norman Bates !» murmura Neil, assis dans le canapé. Voilà. Sauf que quand j'ai interrogé le thanatopracteur, il a insisté sur le fait que les bons directeurs de funérarium sont des champions de l'empathie, ce qui ne correspond pas vraiment à la description que je donnerais de notre assassin. Neil soupira, se redressa. Un peu comme toi, l'idée de la nécrophilie m'a trotté dans la tête toute la journée. Inquiétant pour un type qui passe sa vie à la morgue. Raya Didi. Neil se renfrogna. Il n'était pas d'humeur. Voilà ce qui se passe. D'un côté, notre assassin paraît plus à l'aise avec ses victimes après leur décès. Mais d'un autre, il ou elle n'est pas attiré par elle de cette façon. Pas d'agression sexuelle. Par définition, ce n'est donc pas un nécrophile. Pour mémoire d'ailleurs, ça n'aurait pas exclu que notre criminel soit une femme. Je suis tombée par hasard sur 5 ou 6 cas de femmes nécrophiles, histoire de rendre mes recherches bien dégueu. Il y a aussi un certain nombre de femmes thanatopracteurs, ajouta Didi. Je dis ça comme ça. Donc, on en revient à la question d'Alex, continua Neil. Nous avons 2 cadavres et toujours aucune idée du mobile des meurtres. S'il ne s'agit ni de crimes sadiques, ni de crimes passionnels, ni d'une vengeance, de quoi s'agit-il ? « J'ai peut-être la réponse à cette question, » répondit Didi. « Étant donné l'absence de torture et de mauvais traitements, je crois qu'on peut affirmer à coup sûr que notre assassin n'agit pas par goût du sang. En réalité, je crois que ça ne l'intéresse pas tant que ça de tuer. Il ou elle obéit peut-être à une pulsion, disons au désir viscéral d'enrichir une collection privée totalement unique et personnelle. « Quel genre de collection ?» demanda Phil. « Des échantillons de peau humaine. » Le silence tomba dans la pièce. Puis Neil fit la grimace. « Ed Gein, le retour ?» Tout le monde alors fit la grimace. Ed Gein était un tueur en série célèbre pour s'être confectionné un abat-jour en peau humaine. Tout à l'heure, reprit Didi. Quand j'essayais d'imaginer notre individu, je voyais un type solitaire, chétif, inhibé. Si on considère le modus operandi, surprendre ses victimes dans leur sommeil, les droguer aussitôt et les tuer de manière expéditive. Ça me donne l'impression que le principal objectif de notre assassin n'est pas de décharger sa fureur sur une victime expiatoire, ni de satisfaire des désirs sexuels pervers, mais de prélever des lanières de chair avec un soin maniaque. En théorie, ça signifierait que nous cherchons un meurtrier sociopathe et animé du besoin fétichiste de collectionner de la peau humaine. Ça vous paraît cohérent ? Tout le monde approuva. Didi continua. Sauf qu'il y a un problème. Deux, en fait. D'abord, mon épaule. Je vous présente Melvin, dit-elle en montrant son épaule gauche à son équipe. Et ensuite, ce qu'on a trouvé là-haut. Prenons le premier problème, et supposons un instant que notre assassin soit un homme. Comment un fétichiste asocial aurait-il eu les couilles de revenir sur la première scène de crime ? De passer sous le ruban, ce qui avait toutes les chances d'attirer l'attention sur lui, voire de mener tout droit à son arrestation. Et ensuite, d'affronter l'enquêtrice pour la pousser dans les escaliers. Je ne sais plus comment, mais ça me reviendra. Plutôt osé pour un type qui ne s'en prend qu'à des femmes endormies. Alex fit la moue. Lentement, Phil et Neil hochèrent la tête. Même chose pour la petite mise en scène à l'étage. D'un seul coup, monsieur l'asocial pénètre par effraction chez une flic, en plein jour. Il se déguise et camoufle son véhicule pour se faire passer pour un vigile, entre dans la maison en sifflotant et dépose sa carte de visite sur ma table de nuit. Voyons, pour mettre sur pied un plan aussi élaboré et venir nous faire la nique comme ça ? De mauvaise humeur et mal à l'aise, elle eut un petit mouvement qui fit bouger son épaule et sa poche de glace contre le dossier dur de la chaise. Je dirais que l'individu qui cherche ce genre d'affrontement direct ou de provocation pure et simple n'est pas le même que celui qui se contente de surprendre des femmes dans leur sommeil. Alors je me demandais, surtout vu l'absence d'agression sexuelle et de signalement précis, si notre tueur ne serait pas une femme, une collectionneuse de peau. Et ce fut plus fort qu'elle. Elle songea immédiatement à Chanadé.
Une femme s'attaquant à d'autres femmes jouerait davantage d'égal à égal, lui accorda Phil. Dans ce cas, on n'aurait pas affaire à une meurtrière inhibée et souffrant d'une faible estime d'elle-même, mais à une criminelle prête à tout pour assouvir ses pulsions. Il ne serait même pas si étonnant qu'une telle personnalité prenne l'enquêtrice pour cible. Qu'elle joue au chat et à la souris, surtout si elle te considère comme un obstacle entre elle et son désir le plus cher, à savoir enrichir sa collection. Sauf que la carte de vœux lui souhaite un prompt rétablissement, fit remarquer Alex. Si la présence de Didi était une menace pour notre assassin, pourquoi l'encourager à guérir au plus vite ?
Et l'assassin est peut-être un homme, intervint Neil. N'allons pas trop vite en besogne.
Il faisait noir dans la maison, dit Phil d'un seul coup. Puis il rougit, et Didi comprit de quelle maison il parlait. Celle de la première scène de crime, celle où elle avait fait un plongeon dans les escaliers. Phil faisait partie de l'équipe d'enquêteurs qu'il avait découverte. «
Quand nous sommes arrivés, » reprit-il avec embarras.
« Les lumières étaient éteintes. Il n'y avait pas un bruit. Nous n'imaginions pas qu'il pouvait y avoir quelqu'un, même pas toi. »
Il lança un regard à Didi.
« Peut-être que le tueur non plus ne savait pas que tu étais là. Il ou elle a cru qu'il pouvait revenir sans danger, à tort en l'occurrence. »
« J'ai surpris le tueur. » dit Didi à mi-voix.
Et il a riposté en te poussant dans les escaliers, continua Alex. Il a peut-être même pensé que tu étais morte. Sauf que rien n'a été publié dans la presse au sujet d'une enquêtrice retrouvée sans vie sur une scène de crime.
Didi le regarda d'un air soucieux. Mais rien n'a été publié non plus au sujet d'une enquêtrice blessée, n'est-ce pas ? Sur le fait que je suis invalide et que j'ai vraiment intérêt à me rétablir au plus vite. Ils se turent tous un instant. La conclusion coulait de source. Didi fut la première à la formuler. Le tueur a retrouvé ma trace. Il m'a surveillée. Il n'y a que de cette manière qu'il peut être au courant que je suis blessée.
Non, dit Alex d'une voix ferme.
Comment ça ?
Il s'est écoulé 6 ou 7 semaines depuis ta blessure.
6 ou 7 semaines sans nouvelles, jusqu'à aujourd'hui. Rappelle-moi, qu'est-ce qui a changé ces dernières 24 heures? Où es-tu allée?
Alors elle comprit. Le deuxième meurtre, une nouvelle scène de crime.
Sur laquelle tu t'es rendue, dit-il pour la provoquer.
Sur laquelle je me suis rendue, reconnut-elle.
Le tueur était là-bas, dit Phil, encore à l'affût, histoire de surveiller les opérations. C'est une nouvelle information inversée au dossier.
Il se tourna vers Neil.
Le mec ou la fille a l'habitude des pieds. Ça pourrait nous servir, c'est sûr.
Neil hocha la tête, prit des notes.
Mais si le tueur est un collectionneur, pourquoi revenir sur les lieux des crimes? Ce ne sont pas plutôt les sadiques sexuels qui cherchent à revivre l'excitation du moment?
Il peut quand même y avoir un phénomène d'excitation, dit Didi. Seulement, c'est le prélèvement des échantillons qui le provoque. Les heures qui suivent la mort plutôt que le meurtre lui-même. Mais les mêmes règles restent valables. L'individu cherche à se souvenir, à revivre le frisson. C'est aussi ce qui donne son prix à la collection, les souvenirs qu'elle évoque.
Alex la regardait d'un air sévère. Tu en fais partie maintenant. De ses fantasmes, de ses besoins, de ses pulsions. Peut-être que tu l'as surpris la première fois. Et peut-être qu'il ou elle a réagi sur un coup de tête en décidant de te pousser dans les escaliers. Mais ensuite, tu es revenu. Tu t'es repointé sur la deuxième scène de crime. Tu n'étais même pas en service, mais tu continuais la traque. Ça a déclenché quelque chose chez lui. C'est devenu une affaire personnelle. Et c'est toi, Didi, qui en a fait une affaire personnelle.
Elle sentit dans ses paroles comme un parfum de reproche. Léger, mais perceptible. Déjà qu'elle était blessée à cause de son travail, et voilà que ses réflexes d'enquêtrice avaient mis toute sa famille en danger.
Sommes-nous même certains que l'intrus d'aujourd'hui soit le tueur? Murmura-t-elle, prenant ses désirs pour des réalités.
Phil confirma ce qu'au fond elle savait déjà. Le champagne est de la même marque que sur les deux autres scènes de crime, détail qui n'avait pas filtré dans la presse. On considérait ça comme une petite victoire d'avoir obtenu que les médias passent au moins cette information sous silence.
« Donc c'est bien le tueur qui est venu chez nous », résuma Didi, avec un coup d'œil à son mari. Un prédateur animé du besoin obsessionnel de prélever de la peau humaine et de se payer la tête des enquêtrices impotentes.
Elle aurait voulu que son amertume ne s'entende pas, mais c'était raté. Elle aurait aussi préféré ne pas avoir l'air apeuré. Or, c'était au-dessus de ses forces.
Quel genre de tueur pourrait avoir le désir obsessionnel de prélever des lanières de peau? Demanda Neil.
Didi poussa un profond soupir.
Oh, pour ça aussi, j'ai ma petite idée.
Ils la regardèrent avec de grands yeux.
C'est là qu'entrent en scène Harry et Shanadé,